Voilà, on est prêt à reprendre. Donc, on est rendu maintenant à ouais, l'expression de l'étonnement hein, devant la grandeur de Dieu dans ses plans souverains. C'est vraiment impressionnant. Et là, on va lire ensemble les versets 33 à 36 qui forment ce qu'on appelle souvent une doxologie. Ça veut dire simplement une parole de gloire qu'on prononce à l'égard de Dieu. Parce qu'on est impressionné par sa grandeur et on veut lui exprimer aussi toute notre louange et notre reconnaissance. Alors, je lis les versets 33 à 36. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables! Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu? Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Quelle parole de gloire on a ici, Paul. Je pense qu'avec ces mots-là qu'il utilise, démontre lui-même à quel point c'est impossible de tout comprendre, de tout bien saisir en fait les plans de Dieu parce que ils sont trop grands pour nous, tout simplement, ils nous dépassent. Il parle de la profondeur et ce terme-là, au sens figuré, bien entendu, parle de ce qui dépasse complètement la compréhension humaine. Et donc, qu'est-ce que Paul décrit qui dépasse la compréhension humaine? Eh bien, il parle des richesses au pluriel dans la Darby, mais en grec au singulier, comme c'est le cas dans plusieurs versions aussi. Donc, la richesse de Dieu ou les richesses de Dieu d'un point de vue collectif, et puis aussi la sagesse de Dieu et la connaissance de Dieu. Le mot richesse, quand il est au sens figuré aussi, parle de ce qui est indescriptible. La richesse ou les richesses de Dieu, c'est ce qu'on est. En fait, on est incapable de décrire parce que c'est trop grand, ça dépasse la compréhension humaine. La sagesse, c'est la sagesse absolue de Dieu, c'est-à-dire ses plans parfaits qu'on ne comprend pas. La connaissance de Dieu, c'est son omniscience. Alors, vous voyez que Paul souligne à quel point Dieu est grand, Dieu est souverain, Dieu sait toutes choses. Et ensuite, Paul utilise le parallélisme hébraïque pour dire sensiblement la même vérité, mais en deux phrases légèrement différentes. Que ses jugements sont insondables, et ensuite, juste en dessous, on peut mettre que ses voies sont introuvables. Donc, voix, jugement, insondable, introuvable, ça signifie essentiellement la même chose, mais bien entendu avec certaines nuances. Les jugements de Dieu dont on parle ici sont les décrets de Dieu en lien avec la rédemption, ce que Dieu a décidé, arrêté dans ses plans souverains. C'est aussi le mot voix. Au sens figuré, le mot voix en parlant de Dieu, c'est sa manière de faire les choses. Donc, la manière dont Dieu exécute ses plans. Donc, on a jugements qui sont les décrets de Dieu dans ses plans, et voix, c'est la manière dont Dieu exécute ses plans. Et ensuite, on a comme deux verbes, être introuvable, être insondable d'abord, et être introuvable par la suite. Et là aussi, on a sensiblement la même vérité. On parle de ce qui ne peut pas être expliqué en toute profondeur. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe traduit par introuvable signifie littéralement là, quelque chose dont on ne peut pas retrouver la trace. Comme si on avait perdu la trace d'un animal qu'on traquait en forêt. Et tout à coup, paf, on ne trouve plus la trace, on est incapable de retrouver la moindre trace. Et c'est ce que signifie le verbe traduit dans la Darby par introuvable. On parle vraiment de quelque chose là qui on n'arrive pas à expliquer en profondeur. C'est pour ça que dans une question rhétorique, en fait, il y a deux questions rhétoriques coup sur coup dans les versets 34 et 35. Je rappelle qu'une question rhétorique, c'est essentiellement une question dont la réponse est implicite dans la question elle-même. Je veux dire, poser la question, c'est y répondre. C'est un peu ce que ça signifie une question rhétorique. Et donc, là, on pose déjà au verset 34 la question suivante. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? La pensée du Seigneur, c'est ce que Yahweh fait dans sa sagesse, ça parle de ses plans, là. Alors, est-ce qu'il y a un homme, là, qui s'est levé debout un jour et qui a dit à Yahweh, peut-être que tu devrais faire les choses comme ceci ou comme cela? Eh bien, Paul, il dit, c'est qui a fait ça? Eh bien, la réponse, elle est implicite, personne. Il n'y a personne qui a fait ça. Dieu fait les choses selon ses propres plans, dans sa sagesse infinie. Une petite remarque par rapport à la Bible Darby, vous voyez un astérisque devant le mot Seigneur qui indique une référence à Yahweh. C'est vrai que c'est le mot Seigneur en grec, kurios, mais la référence est au Dieu de l'Ancien Testament, en fait, le Dieu d'Israël, Yahweh, le Père de Jésus-Christ. Donc, si on traduisait par qui a connu la pensée ou l'intelligence de Yahweh, on serait pile dessus, hein, parce que c'est exactement ce à quoi ça se réfère. Et Darby voulait l'indiquer en mettant ce petit symbole-là juste à côté. Deuxième question rhétorique dans la doxologie, qui lui a donné le premier et il lui sera rendu? Autrement dit, qui a donné quelque chose à Dieu, puis ensuite Dieu va lui rendre parce que Dieu va dire, ah, je suis tellement reconnaissant que tu m'as donné ça que je vais te donner en retour. Vous comprenez que ça n'a aucun sens. Il n'y a personne. C'est la même réponse. Personne. Dieu n'a pas fait ces plans-là parce qu'on lui aurait dit quoi faire ou suggéré ou conseillé quoi faire, ou alors on lui aurait donné quoi que ce soit comme outil pour l'accomplir. Ces deux questions-là placent l'homme presque comme un spectateur. Tout ce qu'il peut faire, l'homme, c'est regarder et admirer ce que Dieu a fait. Et en particulier, quand on est croyant, bien, on arrive avec l'apôtre Paul et on va dire avec lui le verset 36, effectivement, c'est de lui, par lui, pour lui, toutes les choses, tout ce qui existe sont là, eh bien, à lui la gloire pour les siècles des siècles ou éternellement. Amen. Voilà, parce que oui, il n'y a rien qui vient de nous dans tout cela. Et heureusement, je vous dis heureusement, je pense que vous allez être tous d'accord avec moi, heureusement que la rédemption ne reposait sur aucun de nous. Voilà pour ce qui termine le chapitre 11, mais c'était la porte d'entrée au chapitre 12. Parce que de reconnaître comme ça tout ce que Dieu fait dans ses plans de rédemption et le glorifier doit nous amener à faire maintenant un pas d'obéissance. Vous savez, la doctrine est incomplète si elle n'est pas, si on n'y ajoute pas la foi, l'aspect pratique maintenant. Elle sera incomplète dans le sens qu'elle n'aura aucun impact dans nos vies. Maintenant, on doit bâtir nos vies sur la saine doctrine. Et on entre dans la section des chapitres 12 à 16, qui nous parle des responsabilités des croyants maintenant. C'est l'application de la justice dans nos vies. C'est voici maintenant ce que fait l'Évangile. C'est oui, on a vu comment définir l'Évangile, mais là, comment l'appliquer l'Évangile? Bien, c'est surtout à partir d'ici que on entre dans cette partie qu'on appelle souvent pratique. Comme je l'ai dit au départ, il y avait beaucoup de pratiques tout partout à travers l'Épître, mais là, c'est vraiment une caractéristique particulière, comme si l'apôtre Paul nous disait, bon, là, j'ai fini ma longue exposition de la doctrine de l'Évangile ou de la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on a appris et découvert sur ce que c'est que l'Évangile? Bien, il y a vraiment un pont remarquable entre ce chapitre 11 et chapitre 12, et cette doxologie à la fin qui nous dit, voilà, on est reconnaissant envers Dieu, on reconnaît que tout repose sur ses plans souverains. Maintenant, dans la foi et l'obéissance, voici comment nous sommes appelés à répondre. Nous allons nous occuper des 8 premiers versets que je vous invite d'abord à lire avec moi. Puis ensuite, je vais diviser ces 8 versets-là en deux sections, verset 1 à 3 et ensuite versets 4 à 8. Lisons d'abord Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ, et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons, selon la proportion de la foi, soit le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, qu'il enseigne, pardon, je suis perdu mon texte, soit celui qui l'enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, soit celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. C'est embêtant, tous ces crochets, vous trouvez pas? C'est difficile, il me semble, de faire de la lecture quand il y a tellement de crochets dans le texte, c'est épouvantable. Et là, je viens de lire dans la Bible d'Arby, il y a beaucoup de crochets, mais on sait que Darby fait ça quand il ajoute des mots qui ne sont pas dans le texte original grec, mais qui sont, selon son jugement, nécessaires en français pour que la phrase ait du sens. C'est vrai, je vous avoue que le texte grec de Paul ici, il est beaucoup plus court, beaucoup plus direct que cela. Il y a beaucoup de mots qui sont ajoutés. Vous le voyez, vous avez juste à regarder une darby puis considérer tous les crochets, là. Beaucoup de mots sont ajoutés dans une section de texte qui est pourtant courte. Mais voilà, c'est nécessaire parce que Paul est très, très direct et puis le grec est beaucoup plus simple, mais pas forcément plus facile à comprendre dans l'original. Je crois vraiment que dans la section que nous avons là, nous débutons ce qu'on peut appeler l'application de la justice ou tout ce qui est en lien avec la vie pratique dans l'Évangile ou parce qu'on connaît l'Évangile. Et les bases sont très fortes, très solides ici. Ça commence vraiment de façon, comment je dirais, la barre est haute. La barre est très haute. Ça commence un peu comme si on reprenait la parole de Jésus dans le sermon sur la montagne. Soyez parfaits. Ouais, OK. Ça, c'est une barre qui est très haute. Hein? Eh bien, c'est un peu comme ça que ça se présente ici quand on regarde attentivement le texte. Hein? Ça nous parle de nous donner tout entier à Dieu. Rien de moins. Et franchement, si on est chrétien, si on a connu l'Évangile, que c'est clair pour nous et qu'on a eu la foi et la repentance qui fait de nous des enfants de Dieu, Dieu demande qu'on lui donne toute notre vie, rien de moins. Donc, franchement, dans le langage qui est utilisé là, c'est ce qu'on voit très clairement. Et l'apôtre Paul appelle à un don tout entier de notre vie, tout entière, avec tout ce qu'elle comprend. D'abord, se donner entièrement à Dieu, ce sont les versets 1 à 3, et ensuite se donner entièrement les uns aux autres, dans les versets 4 à 8. Et puis voilà, je vais peut-être déjà faire une petite note sur ce que, parce que la division au verset 8, là, vous voyez, c'est un petit peu arbitraire de notre part, mais fallait diviser quelque part. Mais en réalité, je crois personnellement que les versets 6 à 13 dans le texte grec ne forment qu'une seule phrase, dont le cœur est probablement l'expression non verbale du verset 9, l'amour sans hypocrisie. Et là, il faut mettre un verbe en français parce que le grec dit simplement l'amour sans hypocrisie. C'est direct, là. Agapé. Anupokritos, deux mots. Il y a l'article, ré, là, mais agapé, anupokritos, pas de verbe. Amour sans hypocrisie. OK. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Eh bien, là, voilà, ça dépend des traducteurs, mais un traducteur va traduire dans une phrase impérative que l'amour soit sans hypocrisie ou dans une affirmation, une phrase déclarative, l'amour est sans hypocrisie. Les deux, c'est correct. Les deux, ça va. Mais franchement, je pense que ce verset 9-là est au cœur d'un bloc de texte qui regroupe les versets 6 à 13. En grec, c'est un petit peu plus évident peut-être de par la structure grammaticale. Mais pour ce qui nous concerne, on va s'arrêter au verset 8. Et puis, il y aura l'autre orateur, je ne me rappelle pas c'est qui exactement, puis là, je ne veux pas lui mettre de la pression, mais il va reprendre au verset 9, et puis il va suivre le texte. Donc, il y a pas de souci. Mais il faut qu'on garde à l'esprit que c'était quand même tout un bloc à partir du verset 6, d'un point de vue grammatical qui s'étend jusqu'au verset 13. Regardons d'abord les versets 1 à 3. C'est d'une profondeur hallucinante. C'est très exigeant d'un point de vue pratique parce que ça demande tout, rien de moins, sans exception. Ça demande tout, tout, tout. Alors, on reprend le verset 1. Je vous exhorte donc, frères. Et ce verbe exhorter pourrait aussi être traduit par encourager et généralement 9 fois sur 10. Parfois, il a un sens de consolation, mais 9 fois sur 10. Ce n'est pas scientifique, mais c'est juste pour créer l'impression qui est probablement juste. Ce verbe-là a plutôt le sens d'encourager, dans le sens d'exhorter ou de conseiller vivement quelque chose à quelqu'un. Voici ce que je te conseille vivement de faire. Mais il y a un ton amical. Exhorter ou encourager, parakaleo en grec, n'est pas a priori un verbe pour reprendre quelqu'un dans le but de le corriger. C'est plutôt un verbe qui a le sens de vraiment conseiller quelqu'un, l'encourager à faire quelque chose, lui donner un petit push, une petite motivation, là, tu vois, à faire quelque chose. Et c'est pourquoi on trouve là un ton amical dans l'emploi de ce verbe-là. Alors, l'apôtre Paul lance des encouragements aux frères et sœurs, bien sûr de Rome à l'époque, mais encore pour nous aujourd'hui, sur la base des compassions de Dieu. Remarquez les compassions au pluriel. Il me semble que ce n'est pas quantifiable, la compassion. La compassion, c'est abstrait. Je veux dire, tu as de la compassion, tu peux en avoir beaucoup de compassion, mais tu sais, de mettre au singulier pluriel, c'est un petit peu curieux quand même. Mais je suis persuadé que le pluriel ici est utilisé pour parler de la très grande compassion de Dieu et en même temps pour mettre l'accent sur l'aspect concret de la compassion. Donc, si Paul utilise les compassions de Dieu, c'est pour dire qu'elle est concrète et elle est immense, cette compassion-là. En fait, savez-vous que le mot compassion ici résume les 11 premiers chapitres? Tout simple que cela. C'est sur la base de tout ce qu'on vient de voir d'un Dieu si compatissant, où on avait terminé là, vers la fin du chapitre 11, la miséricorde que Dieu va faire à tout le monde, là, c'est ça la compassion? Bien, en fait, ça englobe tout ce qui précède. Donc, sur la base de tout ce qu'on vient de voir d'un Dieu si compatissant, comment répondre, frères et sœurs? Présentez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Rien de moins. Alors, c'est très exigeant, c'est demandant, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire de moins si ça n'a aucun sens? Je veux dire, il nous a tout racheté, alors tout lui appartient de toute façon, mais ça devrait être simplement une expression de gratitude, de reconnaissance, d'action de grâce de notre part. Et puis, on sait tellement que même si on doit tout abandonner, si on doit renoncer à tout, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire pour nous. Pour obéir à Dieu. C'est bizarre, hein, que ça, même après des années de vie chrétienne, il y a des domaines où ça ne rentre pas. On ne comprend pas ça. Puis c'est comme si on ne veut pas qu'on. Je ne sais pas si on est. Oui, on est encore dur de tête et de cœur, hein, parfois. Puis on a de la peine à comprendre que obéir à Dieu, même quand ça plaît moins, quand ce n'est pas le premier plan que nous, on avait, c'est toujours le meilleur. Je veux dire, voilà, il n'y a rien de moins que ça. Alors, voilà, c'est un sacrifice, puis comme ça le dit, sacrifice, c'est ce qui doit revenir à Dieu, qu'on doit lui offrir avec dévouement. Bien, nos corps ici représentent l'ensemble de nos vies. C'est toute la vie de tout ce qu'on est, en fait, c'est toute la personne qu'on est. Eh bien, on doit le donner à Dieu avec dévouement. C'est un sacrifice qui va être vivant, vivant dans le sens d'un mode habituel, C'est pas un acte unique. Tous les jours, je dois me donner en sacrifice à Dieu. C'est vivant. D'habitude, un sacrifice, c'est mort, c'est fini. Mais dans ce cas-ci, il est vivant et on l'offre continuellement au Seigneur. Il est saint parce qu'il est entièrement consacré à Dieu. Il lui appartient complètement. Puis dans la notion de sainteté, il y a toujours l'idée de pureté, de séparation du péché. Et c'est aussi agréable à Dieu parce que Dieu l'accepte pleinement. C'est conforme à sa volonté. Vivant, habituel, saint, consacré et séparé du péché, agréable, conforme à ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi Paul dit, c'est votre service intelligent. Ah, là, c'est intéressant de voir la façon dont les différentes traductions ont rendu cette expression-là, parce que oui, c'est vrai qu'elle est toute particulière. Personnellement, je vais aussi garder le terme service dans ma traduction, mais utiliser le terme spirituel plutôt que intelligent, parce que le terme qui est là, logikos, qui, bon, peut-être qu'on pourrait le rendre presque translittéré par logique, c'est parfaitement logique, j'aime un petit peu moins raisonnable dans la version second, mais en fait, ça nous parle de ce qui est non seulement rationnel et logique, ou intelligent, comme le traduit Darby, mais dans le sens où c'est parfaitement sensé d'un point de vue spirituel. C'est votre service, dans le sens, c'est le culte que tu rends à Dieu avec une entière consécration qui est parfaitement sensée d'un point de vue spirituel. Bref, j'oserais dire que logikos en grec veut dire mature. En fait, c'est ça qui va être l'indication ou l'indice de ta maturité spirituelle quand tu vas accepter de donner ta vie tout le temps, entièrement au Seigneur. C'est de la maturité spirituelle. C'est là qu'on doit arriver. Donc, vous voyez à quel point c'est exigeant tout cela, puis c'est profond, ça demande beaucoup. Mais pour y arriver, on doit être transformé. Tu sais, déjà en devenant chrétien, on est déjà transformé, mais il y a aussi une transformation progressive, on peut l'appeler la sanctification progressive, qui se manifeste par des changements que l'on constate dans nos vies, dans nos cœurs d'abord, dans nos pensées, notre façon de voir, notre vision du monde, qui va se refléter par une façon de vivre, de marcher, de parler, de se conduire. Tout est affecté par le fait de se donner entièrement à Dieu. Mais pour cela, on doit suivre ces recommandations du verset 2. Ne vous conformez pas à ce siècle. Autrement dit, soyez pas rendus conformes à un modèle en particulier, à une manière de vivre. Le siècle ici, c'est la manière de vivre du monde actuel, pendant la période de l'Église, hein, et tout le péché qui caractérise cette manière de vivre-là. Donc, faites attention pour que le monde n'ait pas un impact tel que votre vie devienne conforme à ce qui se fait dans le monde. On parle bien entendu d'une façon de vivre qui est caractérisée par le péché, par une vision du monde faussée, par des faux raisonnements par rapport à la parole de Dieu aussi. Mais contrairement à cela, soyez changés de forme, transformés et vraiment de façon radicale. Et cette transformation-là va se faire dans l'entendement ou dans l'intelligence, c'est-à-dire dans la manière de voir les choses, dans la manière de voir la vie et ce qui va affecter directement par la suite l'attitude. Et le but est de discerner la volonté de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je reviens sur ce concept d'être transformé aussi. Littéralement, on pourrait lire le verset 2 ainsi, ne soyez pas formés avec le monde actuel, mais soyez changés de forme par la nouveauté de l'intelligence spirituelle, de la manière de voir les choses. Donc, la transformation dont on parle, c'est un changement de forme intérieure. C'est une profonde transformation intérieure qui va se voir à l'extérieur par la manière de vivre et de se conduire. Le verbe utilisé ici est exactement le même qu'on voit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit qu'on est transformé en l'image du Seigneur. Autrement dit, nos vies reflètent de plus en plus qui est le Seigneur par la transformation qu'on vit chaque jour, par la maturité spirituelle qu'on est en train d'acquérir à force de donner nos vies au Seigneur. Et donc, pour C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens qu'on est transformé de gloire en gloire. Pourquoi de la gloire? Ben, c'est le même verbe utilisé pour la transfiguration du Seigneur dans Matthieu 17 et Marc 11, où on voit Jésus apparaître dans toute sa gloire. Eh bien, on est appelé à refléter la gloire, cette présence glorieuse de Christ d'une manière pratique dans nos vies. C'est pas important que le monde ne voit pas cette gloire-là dans un sens. Il faut qu'il la voie. Mais c'est pas ça qui est le plus important. L'important, c'est que cette gloire-là soit visible pour notre Seigneur et pour tout le monde spirituel qui doit voir la gloire du Seigneur. Vous savez que même le Seigneur Jésus lui-même, sa gloire n'a pas été vue. S'il ne la montrait pas sur la montagne de la Transfiguration, on ne la voyait pas. La majorité des gens n'ont jamais vu la gloire du Seigneur. Ils ont vu juste un simple juif puis un malfaiteur qu'ils ont crucifié. Mais la gloire qu'on doit refléter n'est pas forcément l'idée que les gens puissent dire, hey, lui, il est vraiment glorieux, hein? Il doit être un chrétien. Ce serait magnifique que ce soit comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais cette gloire-là, elle est visible aux yeux de notre Sauveur, de notre Seigneur. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à être transformés de plus en plus à sa ressemblance. C'est une transformation en profondeur qui va nous amener à discerner la volonté de Dieu pour nos vies, une volonté qui est bonne, agréable et parfaite. D'ailleurs, ces trois adjectifs modifient la volonté. Le grec va dire, quelle est la volonté de Dieu? La bonne, agréable et parfaite. C'est celle-là, c'est cette volonté-là qui est bonne, qui a du mérite, qui est agréable parce qu'elle est conforme à la volonté de Dieu, qui est parfaite parce qu'elle atteint l'excellence que Dieu attend de nos vies. Vous voyez que c'est exigeant, hein? Je pense que titrer la section Se donner tout entier à Dieu, là, il me semble que ça a du gros bon sens avec ce qui nous est donné là. Maintenant, on se donne en sacrifice, on se donne entièrement à Dieu, on ne laisse pas le monde nous transformer, mais contrairement, on laisse le Seigneur nous transformer depuis l'intérieur pour que ce soit visible à l'extérieur. Et puis, cela va nous amener à trouver chacun notre propre place dans les plans de Dieu pour l'édification de l'Église, pour la croissance du corps dans lequel il nous a placés. Et c'est là qu'on arrive avec le verset 3. Qui met les bases à tout ce qui suit dans les versets suivants. Et franchement, quel verset profond! Vous avez sûrement remarqué le jeu de mots dominant dans la version Darby. Malheureusement, ce jeu de mots-là disparaît dans plusieurs versions françaises. Mais l'apôtre Paul utilise beaucoup de termes qui utilisent le grec phronéo. Phronéo en grec, c'est d'abord une façon de penser qui affecte la conduite et donc qui détermine une attitude. C'est une manière de voir les choses. C'est une profonde réflexion. L'apôtre Paul va utiliser un mot de cette famille-là, de phronéo ou phronein, dans Philippiens, par exemple, lorsqu'il est dit dans la version seconde, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Le mot sentiment, c'est la pensée. D'ailleurs, Darby traduit bien par penser comme qu'on pense quand on est en Jésus-Christ ou quelque chose de semblable, parce que c'est une attitude dont on parle, c'est une vision du monde qui façonne notre attitude et notre conduite. Et franchement, c'est impressionnant en grec, le jeu de mots qui est là. J'ai presque envie de faire quelque chose que je ne fais pas tellement souvent parce qu'on ne veut pas trop se mettre de l'avant et que les gens aient une haute opinion de nous-mêmes. Et ce n'est pas mon but du tout. Mais juste qu'au son, vous écoutiez ce que ça donne. C'est impressionnant. Je vous lis le bout de texte du verset 3 en grec. Écoutez bien ce que ça dit. Me hyperphronein, parodeiphronein, alaphronein, eistosophronein. Je répète parce que je suis sûr que vous l'avez remarqué déjà, mais phronein, phronein, c'est tout partout. Mais hyperphronein, hyper, comme hyper, au-dessus, penser au-dessus. C'est traduit dans, c'est quoi là, dans la Darby, il faut que je revienne à mon texte, d'être, de pas penser hautement ou au-delà de ce qu'il faut penser. Quel jeu de mots. Mais hyperphronein, parodeiphronein, à la phronein, eistosophronein, c'est phronein, 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 phronein. Quatre fois. Quatre fois, une derrière l'autre. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire que pour des gens qui se donnent entièrement au Seigneur, ça va passer sans condition par l'attitude, par la manière de penser et de voir les choses. Une manière de penser qui doit être conforme à ce que Dieu veut pour nos vies. Alors, si on regarde, par exemple, dans la traduction Darby, la manière dont ça a été rendu, il dit par la grâce qui m'a été donnée. Ça, c'est la grâce d'exercer mon ministère apostolique. Donc, déjà, l'apôtre Paul parle de service, là, puis il parle de son propre service. Donc, par la grâce qui m'a été donnée, le service que moi j'ai reçu de vous instruire par la parole de Dieu, je dis à chacun qui est parmi vous, donc, de ne pas avoir une haute pensée de lui-même. Donc, pense pas hautement. Exalte-toi, ne t'exalte pas toi-même. Ne te donne pas de l'importance. Mais attention, il faut ne pas non plus tomber dans l'erreur extrême qui dit je suis rien, je suis absolument rien, moi. Oh, j'ai aucun don. Le Seigneur veut rien faire avec moi. Moi, je suis juste un petit chrétien qui veut rien faire avec. Non, excusez la parodie, mais franchement, il ne faut pas faire notre Jérémie là qui se cache derrière une fausse humilité. Il faut absolument qu'on ait l'attitude qui convient. Cette attitude passe par la reconnaissance humble de ce que Dieu veut faire de nous, de nos vies. Et cette humilité-là va toujours demander au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Montre-moi les dons spirituels que tu m'as donnés. C'est d'ailleurs ce qui s'en vient là. L'exercice des dons spirituels pour l'édification commune du corps de Christ. Montre-moi quelle est ma place. Montre-moi ne pas être un orgueilleux qui pense avoir tel ou tel don ou qui voudrait avoir tel ou tel don parce qu'il est tellement beau et qu'il est glorifié par les hommes. Montre-moi ne pas avoir cet extrême-là, mais à ne pas non plus me cacher dans une fausse humilité qui me fait dire moi, je suis rien du tout et le Seigneur veut rien faire avec moi. C'est faux, ça, parce que le Seigneur a donné des dons à chacun et chacun a sa place dans le corps de Christ. Ben, d'ailleurs, tu vois, c'est ce que Paul dit, c'est OK, pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir. Autrement dit, là, il y a une manière de penser qui est juste. Je pense qu'il manque peut-être un pensée là-dedans, là. Mais si je traduis très littéralement pour garder le jeu de mots en grec, ça va donner ceci. Je dis à chacun qui est parmi vous de ne pas penser hautement, au-delà de ce qu'il faut penser, mais de penser à être sain dans la pensée. Donc, là, on a les quatre fois penser ou les quatre termes qui parlent, qui comporte le terme phronéo en grec, donc une manière de voir les choses, une attitude, etc. Donc, le point de Paul, c'est imagine-toi pas avec des pensées hautaines, ni avec des pensées complètement à terre, mais essaie donc de viser au milieu, là. C'est-à-dire d'avoir la manière de penser qui est cohérente, qui est juste. Et c'est quoi cette manière de penser-là? C'est simplement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quels sont les dons que tu m'as donnés? Que je puisse les voir dans l'exercice et la pratique de différentes occasions ou opportunités qui me sont présentées et qu'à travers cela, je et le corps de Christ avec moi puissent découvrir quels sont mes dons spirituels pour que je les applique et je les mette en pratique dans l'Église. Je crois que c'est ça qu'on doit revenir à la base pour la fameuse question de discerner les dons spirituels, c'est d'avoir une juste pensée comme il convient de penser. Pas penser hautement, pas penser à terre, là, mais avoir une pensée qui est juste, en fait, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, c'est-à-dire la mesure de foi, c'est ce que Dieu a attribué à chacun en tant que don spirituel. La foi dont on parle ici, c'est un don spirituel. Donc, Dieu, dans une mesure, c'est-à-dire parce qu'il a donné une part à chacun qui va contribuer au bien de l'ensemble, eh bien voilà, faut-tu le mettre en pratique. Mais toute la question de découvrir les dons spirituels est un peu cachée derrière ces exhortations-là. Paul ne les développe pas en détail, mais le fondement, il est là et il est clair. Aie une juste manière de voir les choses. Autrement dit, juge l'orgueil et juge la fausse humilité. Juge les deux. Parce que si tu juges pas les deux, je vois pas comment tu vas arriver à avoir une pensée équilibrée par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. J'espère que je suis clair parce que c'est compliqué tout ça. Mais bon, bref, voilà, c'est vous poserez des questions, puis j'essaierai d'être mieux dans les réponses que dans l'exposé si je peux le faire. Alors, voilà ce que Paul dit. On a une vision équilibrée, balancée de tout cela. Et ce qui devrait nous amener à nous donner tout entier au service les uns des autres, et là, c'est ce qu'on a dans les versets qui suivent, avec l'analogie du corps humain, comme on le voit dans les versets 4 et 5. Donc, Paul utilise vraiment ce qu'est le corps humain pour dire, ben, tu vois, il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres, et tous les membres n'ont pas exactement la même fonction. Chacun, a leur utilité. Bien, c'est la même chose quand on est en Christ. On est un seul corps en Christ. Le corps dont il est question, c'est le corps spirituel dont Christ est la tête, et ce corps-là est visible dans les différents aspects locaux du corps de Christ, c'est-à-dire les églises locales, à chaque endroit qui sont représentatives de l'ensemble du corps de Christ. Bien sûr, une église locale n'est pas tout le corps de Christ, mais en est une partie qui est appelée à fonctionner comme un corps de Christ avec la tête qui est présente au sein de notre rassemblement, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu. Et remarquez les expressions utilisées par Paul. Nous sommes un seul corps en Christ. Et ça, là, en Christ, en lui, en Jésus-Christ. Oh, il y en a tellement, mais je pense qu'il y a une vingtaine d'expressions dans le Nouveau Testament qui vont dans le même sens et qui utilisent des genres d'expressions semblables, avec les prépositions en ou dans le Christ, plus rarement selon, mais en général c'est en Christ ou dans le Christ ou avec beaucoup, beaucoup d'expressions semblables. Et le but est toujours de souligner le lien fondamental qui existe entre les croyants et le Seigneur Jésus-Christ et son Père, et toutes les bénédictions qui en découlent. Le fait de faire partie du corps de Christ avec tout ce que ça implique, c'est immense, c'est glorieux. Et quand on ajoute en Jésus-Christ le Seigneur, par exemple, ou dans notre Seigneur Jésus-Christ, quand il y a le mot Seigneur de rajouter, ça met encore l'accent sur la seigneurie, la souveraineté de Christ. Donc, ce que Paul dit essentiellement dans les versets 4 et 5, c'est qu'on est béni en Christ, on fait partie d'un corps, on a un rôle à jouer, on a une fonction et on doit le faire avec toute l'humilité requise pour des enfants de Dieu qui se sont donnés à Dieu en sacrifice vivant. Tout cela est rattaché, là, vous le voyez bien. Mais comment ça va se faire? Bien, là, on a les versets 6, 7 et 8 qui ne font pas une nomenclature de tous les dons spirituels qui existent, mais dans une liste, une énumération de plusieurs de ces dons-là qui montrent la contribution de chacun à l'édification du corps de Christ. Et ça, là, ça, c'est la partie pratique de l'Évangile. Ça, c'est la partie pratique de la justice de Dieu qu'on a reçue en se convertissant à Jésus. Verset 6 nous dit qu'on a des dons de grâce différents selon la grâce qui nous a été donnée. Là, on a des dons de grâce selon la grâce qui nous a été donnée. La grâce qui nous a été donnée, c'est le privilège de servir Dieu. Ben, si on a le privilège de servir Dieu, ben, c'est avec des dons qui nous sont faits pour qu'on puisse le servir. Donc ici, on ne parle pas de la grâce salvatrice essentiellement. On parle de dons spirituels et du privilège de servir Dieu. Donc, on a reçu cette grâce de servir Dieu avec des dons gracieux ou des dons de grâce, eh bien, on doit le mettre simplement en pratique. Et voici les dons dont il parle maintenant. D'abord, le don de prophétie. Le don de prophétie est le don de proclamer la révélation de Dieu. C'est très général ici. Ça peut être dans plusieurs contextes différents, incluant le témoignage personnel envers des membres de notre famille ou des amis. Ça peut aller aussi dans l'encouragement, l'exhortation, dans différents groupes. Ça va jusqu'à la prédication dans l'église locale. Et donc, pour comprendre tous les différents sens du don de prophétie, il faut tenir compte du contexte. Ici, de toute évidence, l'apôtre Paul n'étaye pas un contexte en particulier, mais fait simplement que généraliser le don de proclamation de la révélation de Dieu. Eh bien, quand on veut exercer un tel don, il faut s'assurer de le faire selon la proportion de la foi, ou plus littéralement, selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire être en accord avec la doctrine. Le mot foi ici, c'est la saine doctrine. Tout à l'heure, c'était un don spirituel, mais ici, c'est la saine doctrine. C'est la foi objective. Notre foi repose sur quelque chose, sur un objet. C'est la révélation de Dieu, c'est-à-dire sa parole, et donc la saine doctrine concernant l'Évangile. Autrement dit, si tu veux proclamer la parole de Dieu, assure-toi de le faire en accord avec la parole de Dieu. Assure-toi que tu prêches ou proclames ou enseignes ou exhortes fondé sur ce que l'Écriture enseigne vraiment. Et là, ça demande bien entendu de l'étude, des connaissances. Et c'est pourquoi les chrétiens aiment la parole de Dieu et continuent, et la lisent à chaque jour et continuent à approfondir leur connaissance de la parole de Dieu, puisqu'elle nous amène à mieux comprendre les voies de Dieu et sa révélation. Donc, si on exerce le don de prophétie, que ce soit en analogie ou en accord, en conformité avec la saine doctrine, si c'est le service dans le verset 7, ouais, c'est ça le verset 7. Si c'est le service, eh bien que ce soit aussi dans l'exercice du service. Littéralement, c'est comme si tu es appelé à servir, sers. C'est très, très bref. C'est pour ça que Darby a mis soyons occupés du service, mais le texte grec de Paul, il est plus clair. Il est plus simple, pas plus clair, plus simple, plus direct. Service, service. Enseigne, enseignement. C'est direct. Alors, on rajoute quelques mots là, pour faire des phrases cohérentes en français parce que ça ferait un petit peu curieux. Mais c'est très, très direct. Et je crois que c'est une façon d'insister pour qu'on colle tout de suite l'exercice avec le principe. Service, sert. Enseigner, enseigne. Ou enseignement. On met ça rapidement. C'est comme un match de boxe. Ça vient vite. Alors, voilà comment Paul utilise ces expressions-là pour dire, ben, tu es appelé à faire quelque chose dans le contexte du corps de Christ. Eh bien, fais-le. Fais-le tout simplement. Quelqu'un m'a posé un jour la question, comment on fait pour découvrir c'est dans quel don spirituel on doit oui, vraiment travailler, tu vois? Moi, je crois franchement que ça vient simplement à travers les opportunités que Dieu donne. Dieu ne met pas les mêmes opportunités à chacun pour le service. Puis à travers l'exercice de ces responsabilités-là que Dieu donne, les choses finissent comme. Vous savez, un entonnoir, ce que c'est, là? Tu sais, les trucs là qu'on met de l'huile là dans le moteur d'un véhicule, là. Et là, c'est un grand réservoir qui se termine par un petit orifice là, dans le fond. Moi, je vois ça un peu comme ça, l'exercice des dons spirituels ou la découverte des dons spirituels. C'est qu'au départ, ben, tu saisis à peu près toutes les opportunités que Dieu met devant toi. Mais là, il y en a que tu vas découvrir. Il y a des domaines que tu vas découvrir que, ouais, non, c'est pas vraiment. Pas sur une base de préférence personnelle, mais simplement parce que il me semble que, ouais, c'est pas tout à fait. Tu sais, il y a quelque chose là qui ne joue pas, je ne sais pas comment l'exprimer, mais enfin, et toi-même et les autres, on se rend compte, ce n'est pas forcément ce à quoi Dieu t'appelle, mais par le fait qu'on est obéissant et qu'on veut simplement servir le Seigneur et qu'on veut utiliser les opportunités qui sont autour de nous, je crois que finalement, Dieu nous amène là dans l'orifice où on découvre vraiment ces dons spirituels-là, spécifiques qu'il donne à chacun et on les exerce. Et puis avec l'appui des autres, parce que les autres aussi le voient. En général, je dirais que, même général, j'aime pas cette expression, je devrais dire tout le temps, là, quand on a un don spirituel, il va être confirmé aux autres. Même Paul et Barnabas n'ont pas échappé à ce principe dans Acte 13, quand le Seigneur, par l'Esprit, a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est à d'autres que. Par d'autres que Paul et Barnabas ont été mis dans le service. Alors voilà pourquoi je crois vraiment que l'exercice ou la découverte des dons spirituels se fait dans l'exercice à travers les opportunités que Dieu met devant nous et en cours de route, les choses finissent par se clarifier. Alors si tu es appelé à encourager, eh bien encourage. Si tu es appelé à partager, c'est-à-dire à distribuer tes biens, à partager avec les autres, comme on voit dans Darby distribuer, eh bien fais-le en toute simplicité. Ça, ça veut dire avec intégrité, sans ambiguïté, sans réserve ou espérance de retour. Fais-le simplement. Distribue, donne. Dieu a donné le don de banquier à certains pour qu'ils distribuent. Alors, et ça, c'est aussi de notre temps, c'est de nos capacités, c'est de nos dons et c'est un peu de tout. Donc, on est tous appelés à faire ça, tous, mais d'une façon particulière, chacun, pour certains, ce sera un don particulier. Celui qui dirige, qu'il le fasse avec ferveur, on voit celui qui est à la tête dans la Darby, mais c'est quelqu'un qui est simplement préoccupé par les besoins des autres et qui exerce un rôle de leader spirituel. Dites-vous bien que dans l'Écriture, un vrai leader spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout et prend toutes les décisions tout seul, c'est quelqu'un qui sert d'exemple aux autres. Vous avez juste à regarder Jésus et vous allez voir que c'est exactement ça, un leader spirituel. Il montre l'exemple, il est un modèle, il encourage les autres, il les reprend quand c'est nécessaire avec les dons qu'il a reçus, mais c'est ainsi qu'il exerce le leadership. Il n'est pas à la tête comme si il est un patron ou si il est un propriétaire et puis qui dit aux autres simplement ce qu'ils doivent faire. C'est pas comme ça que le leadership spirituel fonctionne dans l'Église. Alors, il doit le faire soigneusement dans la Darby ou avec ferveur dans le sens de prendre la chose très au sérieux. C'est très au sérieux d'être un modèle. Et parfois, ben, ça implique de pas parfois, très souvent, ou pour pas dire tout le temps, ça implique de souffrir et de s'imposer des restrictions à nous-mêmes dans le but d'être des modèles pour les autres. Et finalement, celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. J'ai traduit cela par qu'il le fasse avec le sourire. Parce que c'est une expression en grec qui parle de faire les choses sans aucune contrainte, sans mettre de conditions et en affichant un visage qui n'est pas morose. Un peu comme quand Jésus dit, si tu jeûnes, là, passe-toi un linge dans le visage, là. Je paraphrase, mais c'est exactement ce qu'il dit, pour ne pas montrer que tu jeûnes. Tu sais, fais pas, oh, je suis en train de jeûner, je suis tellement spirituel. Non, sois joyeux, là. Tu sais, c'est pas grave si personne sait que tu jeûnes. Moi, je le sais, c'est ça qui est important. Et c'est un peu la même chose ici avec ce dernier don-là. Tu fais preuve de miséricorde envers les autres. Fais-le avec sourire, avec joie. Vous remarquerez que toutes ces exhortations-là nous appellent à être authentiques et intègres dans tout ce que nous sommes, ce que nous faisons. Voilà, je m'arrête ici pour cette partie pratique. Je pense que ça doit avoir mis les bases quelque part pour celui qui va suivre. Sinon, ben, il me corrigera.
Du coup, on a pas mal de questions. La première, qu'est-ce qui fait que l'Église souffre aujourd'hui pour la mise en pratique du verset 5 du chapitre 12 à son sein, la formation d'un seul corps?
Alors, je présume que cette question-là sous-entend le fait qu'il y a une absence totale d'unité de toute l'Église en général. Est-ce que c'est ça qu'on veut souligner? Parce que le verset 5 parle d'être un seul corps en Christ. On en est tous les membres, mais il y a quand même une division importante du corps de Christ. Peut-être qu'il faut faire la différence des choses entre ceux qui d'abord font vraiment partie du corps de Christ et ceux qui n'en font pas partie, parce que ce n'est pas tout ce qui est chrétien qui est forcément membre du corps de Christ. C'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Et puis, il faut faire la différence avec aussi des positions différentes sur des doctrines secondaires qui ne brisent pas forcément l'unité réelle et spirituelle du corps de Christ, mais d'un point de vue fonctionnel, peut nous amener à fonctionner différemment. Donc, faisons juste la distinction entre l'aspect fonctionnel et l'unité spirituelle réelle qui existe. Je pense qu'on doit. Mais ça, c'est une question beaucoup trop grande pour être répondue maintenant, mais je pense d'avoir donné les bases de réponses qui peuvent nous amener à une réflexion par la suite.
Merci beaucoup. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais pourrais-tu donner un mot d'explication sur le mot service du verset 1 du chapitre 12 pour montrer qu'il ne s'agit pas du service de l'esclave?
OK. Donc, d'abord, est-ce qu'on a le même terme? Probablement, mais je suis. Non, on n'a pas le même terme. Non, en fait, le mot service qui est utilisé dans le verset 1 est particulier. C'est un mot qui parle, en fait, qui est souvent traduit par rendre un culte à Dieu. Parce que il met l'accent sur le fait d'adorer Dieu avec une entière consécration. Donc, ce n'est pas le service genre diaconia qui parle de rendre un service en tant qu'assistant ou intermédiaire dans différentes situations. Ce n'est pas non plus doulos ou les termes apparentés qui parlent d'un service d'esclavage. Puis là, il faudrait quand même comprendre que ce langage-là est quand même biblique, mais dans un sens spirituel, bien entendu. Là, c'est plutôt l'athreia qui est là, et l'athreia a vraiment ce sens-là de on sert Dieu comme un. C'est notre culte d'adoration, en fait. C'est avec un grand dévouement, une entière consécration. C'est ça l'accent du mot service dans le verset 1.
Merci beaucoup. Au verset 3, la mesure de la foi, pouvez-vous m'expliquer cette expression?
Oui, la mesure, c'est un terme qui parle de ce que on nous est donné pour contribuer à quelque chose. Donc, je n'ai pas tout reçu. J'ai qu'une mesure à laquelle je peux contribuer dans le corps de Christ. Et ça c'est bien de le souligner parce que, tu vois, si quelqu'un prétend qu'il a tous les dons puis que c'est à lui de tout faire, là, on va l'appeler un dictateur qui n'a rien compris. OK? Il a pas compris qu'il est un membre du corps de Christ dans une mesure. Ça c'est plutôt un esprit de dictateur qui pense que tout lui revient. Mais le mot mesure implique d'avoir justement reçu une part seulement qui est une contribution à un ensemble. Et la foi, c'est un don spirituel. Donc, l'expression mesure de foi veut simplement dire qu'on a un don spirituel, mais on n'a pas tous les dons spirituels, et on est appelé à l'utiliser pour contribuer à quelque chose, c'est-à-dire l'édification de l'Église.
Merci. Une autre question. Est-ce que Satan peut sonder nos cœurs?
Non. Il y a juste Dieu qui est omniscient puis qui connaît le fond de nos cœurs. Alors, si Satan est une créature, de toute évidence, il n'a pas accès à nos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas suggérer spirituellement d'une manière que je ne peux pas m'expliquer des pensées, des mauvaises pensées, des doutes, probablement, mais de connaître la pensée de nos cœurs par rapport à Dieu, moi, je ne crois pas ça. Non, c'est une créature et là on entre dans l'omniscience et seul Dieu possède cette qualité-là.
Merci. Une question par rapport aux prophètes. Chez nous, au Togo, il y a des gens qui se disent prophètes et prédisent l'avenir, des gens disant qu'ils révèlent la pensée de Dieu à leur égard moyennant de l'argent.
Je pense que poser la question, c'est y répondre, à savoir est-ce que ça a un fondement biblique? C'est malheureux, mais le don de prophétie est très exagéré et est utilisé là, avec des fins. Là, regarde, écoute, ici, la question dit clairement pour faire de l'argent. Franchement, ça va complètement à l'encontre même de la pensée biblique, de l'exercice d'un don spirituel. J'en connais un dans la Bible, moi, qui a voulu exercer un don spirituel en retour d'argent ou impliquant un échange d'argent. Ça a très mal fini pour lui, je vous assure. Vous lirez Acte 8 à ce sujet-là.
Et puis la dernière, est-ce que Paul pouvait avoir en arrière-pensée le passage de 1 Corinthiens 4, 7? Car qui est-ce qui met de la différence entre toi et un autre, et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu?
C'est beau ce passage. En fait, lui, ce texte-là, il complète parfaitement celui qu'on vient de voir, en partie avec le fameux jeu de mots du verset 3 sur la façon de voir les choses. C'est que si tu penses hautement de toi-même, bien, tu deviens orgueilleux et tu oublies qu'en réalité, ce que tu es, ce que tu as reçu, ne vient pas de toi, mais est un don de Dieu. Donc, glorifie-toi pas comme si tu n'avais rien reçu. Mais en même temps, on est appelé à reconnaître ce que Dieu nous a donné. Donc, c'est une pensée équilibrée, une attitude équilibrée. Puis 1 Corinthiens 4 va toujours nous rappeler que c'est par grâce qu'on a reçu ce qu'on a reçu. Donc, on ne va pas se glorifier comme si on ne l'avait pas reçu. Mais il ne faudrait pas non plus dire je n'ai rien reçu, parce que là non plus, tu n'es pas dans la bonne traque.
Alors merci beaucoup, il y a des personnes qui te remercient aussi sur le chat pour tes réponses. Je laisse maintenant la place à Jean-Jacques pour conclure.
Merci Mathias, merci à chacun. Peut-être en attendant qu'on passe le micro à Jean-Jacques, si je peux juste me permettre, vu que c'était ma deuxième et dernière participation à Biblos de façon active comme orateur, J'ai suivi toutes les autres et puis je vais continuer à les suivre, Dieu voulant, ce qui s'en vient. Merci de continuer à prier pour mon projet d'édition d'un Nouveau Testament. Depuis le début du printemps, je réussis à mettre entre 50 et 55 heures par semaine là-dessus. C'est très exigeant. Je me rends compte à quel point il faut qu'on ait une pensée globale constante tout en observant les détails d'un texte, ne pas oublier ce qui est dit ailleurs. Et là, on parle de tout le Nouveau Testament. Donc, c'est très exigeant. Il y a des choses qui arrivent comme dans toutes nos vies, à côté de ça, qui nous distraient un peu, qui nous préoccupent, qui nous font du mal ou de la peine. Il y a des épreuves aussi qui viennent à travers tout ça. Donc, merci de prier pour que Dieu il me donne tout le courage, la force nécessaire pour persévérer dans la rédaction. Je termine 2 Timothée demain, Dieu voulant. Il me reste Tite et Hébreux à refaire, à réviser. Ensuite, j'ai fini toutes les épîtres. Et je vais m'attaquer aux évangiles, donc probablement dès le mois qui vient, le mois de novembre. Donc, ce sera un gros sujet à traiter, les quatre évangiles et les actes. Puis je terminerai, Dieu voulant, par l'Apocalypse vers le mois de mars, si mon agenda tient la route et si Dieu le permet aussi. Alors, merci beaucoup pour vos prières. Vous êtes dans mon cœur aussi.
Merci beaucoup, Gilles. C'est vrai que ce passage est riche, ce passage nous interpelle. Dieu est tellement grand que cela nous dépasse complètement. Ses promesses sont certaines et c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et puis, on peut réaliser humblement, avec une grande admiration, tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et fera. Il veut nous changer dans notre intérieur, pour nous mettre à sa disposition. Et c'est vrai qu'on a souvent de la peine à se donner entièrement pour être à son service. C'est quelque chose qui nous interpelle, c'est quelque chose qui nous remet en question régulièrement, parce que c'est pas naturel chez nous. Il faut chercher le naturel dans notre relation avec Dieu. Alors, on doit se laisser transformer. Et se mettre à la disposition de notre Seigneur, c'est quelque chose d'important pour chacun, qu'on puisse être à sa place dans son service, en étant utile pour Dieu, mais aussi pour les autres, mais surtout pour que Dieu soit honoré et pour les autres, pour que l'Église croisse. Alors, c'est vrai que je puisse être utile et que nous puissions être utiles à nos frères et sœurs avec les dons qu'il nous a donnés. Et que je puisse aussi accepter de recevoir de mes frères et sœurs ce que Dieu leur a donné à eux, en toute humilité, et aussi avec une confiance que Dieu les a mis sur mon chemin, que Dieu les a mis dans la même église que moi, pour qu'on puisse croître ensemble et que cette église, nos églises locales, puissent être utiles pour Dieu, mais surtout l'honorer. Alors, c'est vrai que tout donner, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup de peine à réaliser, mais on se rend compte que les gens qui souffrent ont plus de facilité que nous, qui sommes gâtés, enfin, en tout cas dans notre région. On est tellement gâtés qu'on oublie de penser à tout ce que Dieu nous donne. Voilà, alors merci beaucoup pour ce texte. Merci à Dieu pour ce texte qui nous a interpellés ce soir. Et que Dieu vous bénisse chacun.